Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Gaîté Lyrique. Nous sommes, quel jour déjà ?
Samedi 19.
Nous sommes le samedi 19 octobre 2019 et j'ai le plaisir de vous présenter en live le podcast Le Roi Stephen. Alors Le Roi Stephen, c'est quoi ?
Steven.
Ben moi je dis Stephen. Le Roi Stephen, c'est quoi ? C'est des gens un petit peu fous qui se sont dit, mais tiens, si on faisait un podcast qui parlait de Stephen King. Stephen King, auteur anglais. Bon, je vous le chercherai, laissez chercher sur Internet. Et en fait, à chaque épisode, ils parlent d'une œuvre de Stephen King. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils vont faire un exploit devant vous. Parce que d'habitude, leurs épisodes font 2h30, 3h.
Comme ton intro.
En moyenne. Et là, ils vont faire en une heure devant vous, donc un épisode sur la nouvelle poids lourd. Bon épisode.
Merci.
Merci.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Stephen. Nous sommes le samedi 19 octobre 2019. Il est midi 17 et nous enregistrons au Paris Podcast Festival en public. Ouais ouais. Donc là, j'avais noté acclamation de la foule en délire, intervention de la sécurité, retour au calme. On est bon.
On est bon, c'est tout bien.
Avec moi aujourd'hui, en chair et en os pour la première fois, avec moi, donc, pour relever le défi de faire un épisode en une heure maximum, il y a Julien.
Bonsoir, bonjour.
Urde.
Bonjour.
Émilie.
Bonjour.
Grand Poil.
Salut public.
Et Emeric.
Bonjour, bonsoir.
Et Pomme.
Voilà. Ouais.
Est-ce que vous allez bien ?
Oui.
Super.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait d'enregistrer avec des jeans, des vrais vêtements, tout ça ?
Oh bah voilà, bah.
Ça fait bizarre, vraiment.
On n'a pas de bière.
D'habitude, on est en slip, alors.
Ouais, en pyjama, c'est ça. Ouais. C'est bizarre.
On a un défi à relever, 60 minutes, donc on ne va pas perdre de temps. Emeric, c'est à toi, présente-nous le livre.
Alors. Le pilou est un jeu de jonglage niçois. Les participants doivent jongler à la manière d'un footballeur avec un volant appelé pilou. Celui-ci est constitué d'une pièce de monnaie trouée de 25 centimes de l'entre-deux-guerres, sinon ça marche pas, dans laquelle on coince un bout de tissu, de papier ou de plastique. Attendez, je me suis trompé. C'est pas le bon pilou. Le pilou, c'est un tissu pelucheux créé à partir du coton. Non. Ah, c'est
le pilou.
Le Poitou. Le Poitou, c'est une province française qui couvre à peu près les départements actuels de la Vendée, non ?
Non, mais toujours pas. Non, c'est pas ça.
Tu vas y arriver.
Daniel Poulou, né le 26.
Non.
Non.
Alors, Poilou, c'est un gant ramasse-poil pour animaux domestiques. Non. Avec Poilou, prenez soin de vos toutous et vos matous.
Non.
Non plus.
Bon.
Et ça a l'air bien.
Mais on se rapproche.
Ouais. Non.
Alors, trêve de blabla. Poilou, ou Trux en version originale, c'est une nouvelle de Stephen King, publiée aux États-Unis pour la première fois en juin 1973 dans le magazine Cavalier. Alors, je prononce à la française, Cavalier. Puis dans le recueil Night Shift en 1978. En France, Night Shift est publié sous le titre Danse macabre en 1980. Et la version que j'ai compte à peu près 20 pages entre le début de Poids lourd et le début de Court Jimmy Court. Est-ce que vous confirmez la durée,
oui.
La longueur ?
Oui,
à peu près 20-25.
Okay.
Moins d'une heure de lecture.
Tout à fait.
Alors ça dépend pour qui.
Alors j'essaie de faire un résumé en moins d'une minute. Est-ce que vous voyez Cars, le dessin animé de Pixar ?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et ben cette nouvelle, elle répond à la question de « Mais comment, qu'est-ce qu'on est arrivé là ?»
Est-ce qu'elle y répond ? On verra.
On verra bien. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vais commencer à ma gauche avec Grand Poil.
Wow. Bon, bah, ça reste une petite nouvelle un peu oubliable, qui est marrante et sympa à lire. Oui, c'est mieux. Et qui est sympa à lire l'été. C'est pas le plus grand Stephen King qu'on ait jamais lu.
Mais moi j'ai adoré, c'est très court.
Ah.
Ça se perd pas dans des détails qu'on s'en fout. Ça répond à aucune question que c'est posée. Moi j'ai adoré.
Voilà. Super. Émilie, tu l'as relu ?
Je l'ai relu, ouais.
Oh, applaudissez, Émilie.
J'ai fait l'effort, d'où le moins une heure de lecture. En fait, moi, j'avais oublié que c'était une nouvelle. Il y a 5-6 ans, quand je parlais de Maximum Overdrive, je pensais que c'était un scénario qu'il avait écrit comme ça. En fait, c'est une nouvelle, elle a peu d'intérêt, mais elle est sympa à lire.
Elle arrange Pomme.
Oui.
Urde, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah, moi, j'ai bien aimé, comme toutes ces nouvelles, je trouve que c'est où il est le meilleur, en fait. On a une idée, c'est simple, c'est efficace, c'est parfait.
Et Julien ?
Je suis mi-figue, mi-raisin, parce que je ne peux pas être d'accord avec Pomme.
Non, ça serait dommage.
Et l'histoire est sympa, mais moi, je trouve que ça manque, en fait. Enfin, 15 pages, c'était trop court, et je trouve qu'il y a bien plus d'idées développées dans l'adaptation, mais on en parlera après.
Peut-être trop d'idées développées dans l'adaptation.
Les idées d'adaptation, oui, il y en a beaucoup.
Et toi, Aymeric, t'en as pensé quoi ?
Merci de me demander. Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde. C'est bien, c'est court, il n'y a pas de fioritures, je suis content, parce que je n'aime pas trop les descriptions. Et puis finalement, ça se lit vite, il y a un peu d'action, vite fait. En fait, il reste dans son concept. Il ne s'étend pas. Et c'est clair, concis. Donc, un petit moment sympathique.
Mais il n'y a pas de culotte.
On verra.
Il y aura peut-être un point de culotte.
Oh, t'as spoilé le spoil.
On verra.
Bien, bon. On va pouvoir commencer.
Allez.
C'est parti.
Cette nouvelle commence comme une bonne nouvelle. Elle rentre directement dans le vif du sujet. En quelques lignes, on sait qu'on est sur une aire d'autoroute avec un commercial capable de faire n'importe quoi. Un petit couple arrivé à bord d'une Furie qui essaie de lui parler au commercial, pas la Furie.
Une Furie.
Une Furie.
Un point Christine. Voilà.
Ah. Ouais. Oui. Je l'avais noté, on a failli avoir un point culotte dès le début parce qu'il disait que... Il avait son pantalon qui était luisant d'usure. Et je me suis dit, on va peut-être avoir un slip au travers. J'étais un petit peu déçu.
Donc on a aussi un routier qui veut essayer la radio encore un coup et un vieux cuistot avec un sourire au reflet d'or. Normalement, c'est à ce moment-là que Grand Poil me coupe pour me dire que j'oubliais des trucs.
Non, pour l'instant, ça va.
Très bien.
T'inquiète, t'auras ton pop-up.
Donc le vieux cuistot, lui, il regarde par la fenêtre. Et par la fenêtre, on voit quoi ? Un parking. Et sur le parking, il y a quoi ? 7 ou 8 énormes poids lourds qui ronronnent comme des gros chats, la furie du petit couple sur le toit, la carcasse d'une Cadillac avec un conducteur a priori mort, et un peu plus loin, le corps d'une femme en robe rose qui a essayé de leur échapper. Alors à ce moment-là de l'histoire, on ne sait pas de quoi parle le narrateur, mais je suis quasi sûre que c'est un spin-off de Brume.
Ouais, on est dans une ambiance prise d'otage dès le départ un peu.
Oui.
Tout ceci s'est passé il y a une heure. On a donc une poignée de gus vivant dans le resto-route, une poignée de gus morts dehors du resto-route et des véhicules de tout genre. Point important, la cabine téléphonique est dehors et à cette époque, il n'y a évidemment pas de téléphone portable puisqu'on a dit que c'était en 73, il me semble. Le décor est planté, l'histoire peut commencer, c'était efficace.
Fin.
Ça va.
Fin. Voilà.
Merci d'être venu, ça nous a fait plaisir. Les gus de dedans le resto-route essayent de régler la radio pour joindre du monde, mais en vain. Alors, c'est pas la radio FM, c'est la radio pour discuter avec les gens de dehors. Le narrateur est également dans l'histoire, c'est le jeu. Le commercial pète un plomb. Il se lève et il sort en courant. Il ne peut plus rester là. Là, il faut vraiment qu'il sorte. C'est pas possible, c'est pas possible. Il court, il court, il court, il tombe et bim, le camion.
J'avais le furet, mais...
De quoi ?
Je sais pas.
Continue. Ah oui, oh. Ouais, non, si j'ai noté. Mais non, mais c'est bon, tu le dis aussi. Vas-y, continue.
Donc un gros machin qu'il avait pris en chasse lui roule dessus. Enfin, avant il joue un peu comme un chat finalement. Et puis finalement il lui passe dessus et puis il en fait de la charpie. Et dans le resto-route, à ce moment-là, ils ont un peu le seum.
Il en fait de la charpie ou il l'expulse dans le,
ouais, non,
le
il
petit, la petite rivière,
en fait,
la petite canale.
Il le pousse, il joue un peu comme un chat qui joue avec, ouais, avec une souris pour qui lui donne des petits tapes. Le camion pousse le mec jusqu'à le bousculer avec sa grille et le bazarder dans un fossé.
Ouais. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il joue avec ses freins là pour faire tourner les pneus. Moi j'ai compris ça.
Ah non, bon. il fait pas de la charpie avec.
Non,
ah,
on verra plus tard. Il ne lui roule pas dessus.
Ok. Bon, ils ont quand même le seum. Ça, oui. Ça change pas. Ils ont le seum dans le resto-route. 2 heures plus tard, c'est le soir. Dehors, les camions patrouillent. Dedans, on se raconte comment on en est arrivé là. Et notre narrateur explique qu'il était dans sa caisse sur l'autoroute au KLM quand un camion a déboulé à toute berzingue, dégommant les voitures qu'il croisait avec sa remorque. Lui, il a réussi à sortir à temps sur la première bretelle venue pour tomber sur un lieu de rendez-vous de camionneurs en toute professionnalité, bien sûr.
Si je me souviens bien, c'est à ce moment-là qu'on commence à dire qu'il y a des trucs pas naturels, notamment le mouvement de la remorque oui. qui lui avait paru bizarre.
En fait, il a essayé de slider le mec avec le bout de la remorque. Il joue au tennis.
Non, il joue au tennis. Quoi.
Ouais. C'est ça.
Un peu comme non, c'est ça. Roller
il
derby.
Il dit ouais. que normalement, physiquement, c'était pas possible de réaliser ce mouvement avec la remorque, mais là, le camion réussit à se remettre dans la route.
Donc, finalement, c'est ce que tout le monde a plus ou moins vécu. Hein. Ils ont vu un camion arriver, ils sont sortis là, ils se retrouvent sur donc un endroit où il y a plein de camions.
Un petit routier.
La nuit est là, le temps avance. Vous avez eu, on en est, je sais pas, 5 pages, c'est la nuit, nickel. Dehors, on ne voit plus que les phares. Dedans, on allume les lumières. Les projections pour l'avenir ne sont pas très encourageantes. Alors les humains se questionnent. Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que les camions se rebellent comme ça, même contre leurs fidèles camionneurs?
C'est le premier moment où ils commencent un peu à personnifier les camions en disant qu'ils sont peut-être devenus fous, comme si les camions étaient vivants. En fait, jusque-là, on ne le savait pas vraiment qu'il n'y avait pas non. de conducteur dans les camions.
C'est vrai.
C'est oui, ça. C'est troisième page, il dit il n'y avait personne dans les camions. C'est là où on se rend compte que ce n'est pas une attaque, une prise d'otage.
Et le camionneur se dit mais ça faisait 6 ans que je le conduisais. On était comme ça, tous les deux. C'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur pote. Et voilà comment il se comporte.
Il a dû en faire des trucs dans sa couchette. Hein.
Il a beaucoup utilisé son levier de vitesse.
Cela ne nous regarde pas.
Ce qui se passe dans la cabine reste dans la cabine.
J'ai déjà perdu ma ligne, bah comme d'habitude.
On joue pas avec le conducteur, donc, oui, hein, c'est
non,
pas notre
mais ça va. Donc, et l'autre question, c'est s'ils ne peuvent pas sortir du resto-route sans se faire rouler dessus et que la radio est coupée, bah, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ah, la bonne question. Il est 19h et il est temps de faire le bilan des réserves d'eau et de bouffe. Ça se présente bien, ils peuvent tenir environ un mois.
Parce qu'ils ont des congélateurs pleins,
ils ont été livrés hier
et de l'eau.
Ils voilà. ont été livrés hier, il y a des tonnes de steaks, ils peuvent faire
ah,
des burgers.
Il ne faut pas être végétarien. Quoi.
Donc, alors, tant qu'il y a de l'électricité, tout va bien.
Il y a du pain.
Il y a des conserves aussi, c'est bon.
Ouais.
Alors qu'une voiture supplémentaire débarque en roulant sur le corps de la femme en rose comme si de rien n'était, la jeune femme du petit couple craque. Elle ne comprend pas comment les véhicules ayant été créés par les hommes comme... Comment osent-ils se rebeller comme ça contre leur créateur?
C'est du créationnisme primaire de voiture, ça.
Et son petit copain étant là pour la rassurer et lui dire d'aller mieux, il lui dit de fermer sa gueule, en fait. C'est génial.
Me too.
20h30. L'électricité est coupée. Alors, je ne me souviens pas comment elle est coupée. Est-ce qu'il y a une explication?
Ils ne le disent pas. Juste
en fait,
juste
ça dépend coupée, des adaptations.
Ouais. Oui. Ça, on le verra dans les films.
Ouais, dans le bouquin, coupé. Ils n'en parlent pas. Ils disent non. juste l'électricité est coupée. Là,
tu voulais un truc court, un truc court.
Enfin, un truc court.
Le niveau de flip monte, parce que sans électricité, plus de congélo. Donc, les réserves
plus
de bouffe,
ouais.
Exactement. Il y a des bougies. Et le temps de tout rallumer, tout le monde se rend compte que le petit couple, il est en train de se galocher. En même temps, les autres, ils fument des clopes, ça détend pareil, on est bien. On
si c'est la fin du monde, autant en profiter. Hein.
Oui, non.
Voilà.
La Provence.
La Provence.
On y reviendra.
Dans une adaptation.
Ok. Je n'ai pas vu les adaptations comme d'habitude.
La Provence.
Donc, le manque d'électricité pose problème, comme tu disais, grand poil. Vu tout est frigo, congèle, les steaks, il n'y a plus de steaks. Enfin, dans trois jours, ouais. Grand max.
Bon, ils sont un peu alarmistes, parce que ça reste quand même quelques jours, si tu fermes bien le congélateur, tu sais.
Ah, trois jours jours, ils disent.
Mais congélateur des années 70, pas
j'avoue,
sûr.
J'ai pas cette expérience.
On essaiera. Moi, je propose, on essaiera, on fera ça tous ensemble. L'autre problème, c'est
on
l'eau. Parce qu'ils ont l'eau grâce à une pompe électrique. Donc, d'ici une semaine, il n'y a plus d'eau. Donc, il faut faire le plein. Il faut se dépêcher. Et où est-ce qu'il y a de l'eau potable à laquelle on ne pense jamais quand on a soif?
Dans petit les chiottes.
Tip, chiottes.
Dans les chiottes, évidemment. Dans la réserve des toilettes. Donc vous le saurez la prochaine fois que vous êtes en rade de bouteilles d'eau.
Alors peut-être précise, ne pas faire pipi avant.
Ah mais non, non. C'est dans la
dans
réserve.
Le réservoir.
Juste
dans le
pour pas tirer ouais. la chasse
pas
avant.
Dans la cuvette.
Ah mais non, moi, tu prends même l'eau qui est dedans.
Alors
ah
eux non, eux ils prennent juste l'eau du truc.
Ouais, tu peux aussi, hein, mais.
On a parlé d'eau potable.
Là, ils partent dans une espèce d'expédition qui rappelle très fort une des séquences qu'il y a dans Brume, justement.
Ah bah oui.
Où ils doivent aller faire une expédition pour récupérer des médocs
dans
à la pharmacie.
À côté, ouais.
Ouais.
Sauf que c'est plus court.
Donc les toilettes sont évidemment à l'extérieur, sinon c'est pas marrant.
Oui. Ça sent mauvais.
Du coup, ça n'aurait aucun intérêt. Le narrateur, il va avec Jerry, c'est le jeune homme du petit couple. Il n'y a que 6 mètres, mais vu les circonstances, 6 mètres, c'est énorme. À l'aller, pas de problème. Ils remplissent leur truc, chacun dans les toilettes, machin, ils ressortent. Et là, Problème, une voiture les attend en embuscade.
C'est un camion, plutôt.
Non, c'est une voiture, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de place. Ah. Là, il y a une voiture qui les attend en embuscade, qui, bah, du coup, leur fonce dessus. Jerry est pétrifié. Heureusement, quelqu'un ouvre la porte, les tire à l'intérieur. Ouf, on est bon.
Parce qu'en fait, effectivement, à partir de ce moment-là, les voitures rejoignent les camions. Ouais. Au départ, les voitures étaient discriminées par les camions. Elles se faisaient éclater la gueule, pareil.
Ah oui.
Oui, oui, il y avait des classes.
Oui,
c'est ça. Bah, parce qu'il y en a sur le... L'humanité est terminée.
C'est ça.
Exactement. Il y a un système de caste chez les voitures et les camions.
Voilà. Et alors, le problème... Avec les... Oui, pardon, vas-y.
Ce passage-là, ça montre encore un truc, c'est que depuis le début, il fait des analogies avec les chats sur les camions. Et ce comportement de se planquer et de sauter au dernier moment sur sa proie, c'est vraiment un truc de chat. Donc, je pense que Stephen King veut nous faire passer un message.
Tous ceux qui ont des chats et des pieds le savent.
Toutes les familles d'accueil des chats.
Et donc, ils ont renversé presque toute la flotte, hein, je crois.
Oui, ils ont renversé une partie. Mm-hmm.
Ouais, et puis aussi, c'est qu'autour, il me semble qu'à partir de ce moment-là, les voitures et les camions vont commencer à rouler au ralenti pour, je pense, économiser un peu l'essence. Donc, ils font moins de bruit et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent y aller et qu'ils ne se rendent pas compte que l'autre est venu discrètement.
Peut-être, peut-être.
En fait, ils font un cercle de caravane autour du routier.
Le problème avec le fait que les voitures s'en mêlent, c'est qu'elles, elles peuvent passer par les portes, elles peuvent défoncer les portes plutôt que les murs. Donc, il va falloir condamner la porte. Alors, ça aussi, ça rappelle un peu Brume quand il commence à monter des barricades de sacs. Personne n'est dupe, tout le monde sait au fond que bon, c'est, ça ne servira à rien, mais ça occupe. Et ça occupe tellement que même la fille, elle s'y met. C'est écrit dans le texte. Je ne sais plus son nom.
Il a bien fait de l'écrire, hein, sinon on ne l'aurait pas cru.
Allez. Donc même elle, elle s'occupe parce que... Ah oui, coup de bol, comme de la veille, ils avaient été livrés. Coup de bol, là, coup de bol, le chef, à la base, il voulait construire une cabane. Du coup, il a plein de planches dans la réserve. Il est 22h. Les véhicules sur le parking arrivent et repartent. Tout le monde s'endort, plus ou moins. On fait un peu comme on peut, vu la situation. Au petit matin, Snodgrass, donc c'était le nom du commercial que je ne vous ai pas dit parce qu'on s'en foutait puisqu'il allait mourir. Lui, celui qui s'était fait rouler dessus, il se met à hurler. Donc, en fait, il n'est pas tout à fait mort. Le narrateur et la fille se réveillent. Elle veut aller l'aider, évidemment. Et le narrateur arrive à la convaincre de se taire et de ne pas en parler aux autres. Il lui dit, bah, si tu le dis, ton amoureux, la Jerry, va vouloir aller le sauver. En sortant, il va se faire rouler dessus. C'est vraiment ça que tu veux ?
En fait, on a l'impression que c'est... Bah, vas-y.
Non, et on nous dit qu'il y a un son nouveau. Donc on comprend que c'est plus seulement les camions et les voitures. Il y a aussi les moissonneuses qui s'y mettent.
Oui.
Ah oui.
Pourquoi pas ?
Petit à petit, tous les véhicules...
Ouais.
Donc finalement, elle accepte de se taire. Elle ne veut pas perdre son amoureux. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que l'agonie n'a pas été douce et rapide. Mais il finit d'arrêter de hurler à un moment donné.
On est chez King, hein, s'il meurt trop facilement.
C'est ça.
Et pour le coup, on se demande quand même si ce n'était pas une volonté de la part des camions d'avoir quelqu'un qui soit blessé.
Pour rappeler.
Pour attirer d'autres personnes encore dedans. Je parle dans mon micro. Moi.
Oui. Une nouvelle aube est là et apporte une bonne nouvelle. Les camions commencent, donc les véhicules en fait, commencent à être à court d'essence. Le cauchemar est bientôt fini, et sauf qu'en fait, non. Un des gros camions se met à klaxonner de ouf. Ça réveille tout le monde, ça leur remplit les oreilles. Et Jerry reconnaît que c'est du morse, parce que les camions font du morse avec leur klaxon.
Ils
et puis lui, ça tombe bien, parce qu'il a fait les scouts, du coup il sait parler morse.
Il est toujours prêt.
En gros, ce que dit le gros camion, c'est qu'ils veulent que quelqu'un vienne leur faire le plein. Je vous rappelle qu'on est dans une station-service. Ils promettent l'immunité à cette personne. C'est honnête.
Denis Brognard accepte.
Approuve ce message.
Le narrateur, il dit bon, autant y aller, ça sert à rien de se battre. Les autres, ils disent non, jamais, nous ne serons jamais les esclaves des machines.
Et c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a le routier qui propose de faire un vote. Et en général, quand on propose de voter dans une histoire, c'est que ça ne va pas bien finir.
Venez, on vote. Qu'à cela ne tienne. Bon, les camions, eux, ils ne se démodent pas. Ils envoient un caterpillar rutilant avec des grosses roues d'acier qui ne se fait pas prier pour commencer à attaquer la façade du resto-route.
Autant qu'à Exactement, faire, donc il a une grande...
une grosse pelle.
Comment ça s'appelle Une pelle, ouais.
Ouais, c'est ça.
Il a une grande pelle et puis il rentre deux fois... Trois fois.
Puis les restos-routes aux États-Unis, ça doit se détruire assez facilement.
Ouais, les constructions de base aux États-Unis, c'est pas du béton armé, quoi.
Donc finalement, ils se disent non, on va toujours pas se laisser aller. Le narrateur se plie quand même au vote et il prend Jerry sous le coude. Ils courent tous les deux à la cave où il y a le fuel
Donc ils en mettent dans des petites bouteilles en ketchup vide. Mm-hmm. Ils mettent des petits bouts de chemise. Le but étant de faire des bombes.
Un cocktail
Molotov.
Mm-hmm. Exactement. Ils remontent, ils commencent à lancer, ils tirent à côté. Jerry se fait pulvériser par la pelle mécanique. Là, je pense qu'on peut parler de Charpie.
Oui, il passe une pelle.
Oui, donc il est un coup de pelle, voilà. Et heureusement, notre narrateur arrive à bien cibler le moteur et je sais plus quoi. Bref, le Caterpillar repart un peu comme s'il était blessé.
Un partout.
Un partout. Enfin, ouais.
Deux.
Le routier, à ce moment-là, devient fou. Dans un élan de panique, il sort en courant et devinez quoi, il se fait rouler dessus en toute tranquillité par un gros camion.
Oui.
Et même peut-être par son gros camion, je me demande. Je sais pas.
C'est le sien.
C'est possible. En tout cas, c'est la peur panique qui les prend et tout le monde dans le routier est en train de devenir suicidaire.
De toute façon, il commence à plus rester grand monde dans le routier.
Le but étant en fait qu'il y a des champs pas loin et donc ils essaient de rejoindre le champ en courant, si j'ai bien compris. Ça aussi, ça ressemble un peu à Brumet à un moment donné. Bon, finalement, le groupe accepte de faire le plein à ce moment-là. On a deux morts, un camion qui a tout détruit. Le narrateur s'y colle en premier et comme il y a des centaines de véhicules, ça lui colle des ampoules qui finissent par exploser. Il explique que ça lui coule le long des bras, machin. Enfin bon.
Là, on est dans les bons petits détails à la King, bien, bien sale.
Exactement.
Moi, ça m'a fait...
Tu ressens la douleur à sa place.
Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Marche ou Crève. J'ai retrouvé un petit peu la même impression que quand il décrivait le calvaire des gens qui marchent.
Les ampoules aux pieds.
Les ampoules, les trucs, il ne faut pas s'arrêter, quoi qu'il arrive. Il n'en peut plus et quand les réservoirs sont enfin vides et qu'il se dit, parce que c'était le deal, c'est ok, tant qu'il y a
on vide les cuves.
Voilà, on vide les cuves. Et donc il se dit, c'est bon, c'est fini. Et maintenant, il y a un camion citerne qui arrive et qui refait le plein.
Et qui lui jette son tuyau à la gueule pour qu'il remplisse.
Oui, ça.
Et il biffe, là.
Au bout d'un moment, le cuistot vient prendre le relais. Au bout de plusieurs heures, le cuistot vient prendre le relais. Le narrateur rentre pour essayer de dormir. On peut se douter qu'il n'y arrive pas.
Et c'est à ce moment-là où la narration passe au présent, parce qu'il dit « mais je ne peux pas dormir », alors qu'avant, on était au passé.
Ah oui, il racontait.
Ouais. Et là, on arrive au moment où il est en train d'écrire.
Il subit.
Comme dans Brume. Il arrive le moment où on passe au présent, ce qui veut dire qu'on arrive sur la fin de l'histoire. Donc, il se dit qu'il sera peut-être possible de fuir à travers champs, comme les deux autres qui se sont fait rouler dessus précédemment.
Et il oublie les moissonneuses.
Oui, c'est vrai. Puis d'aller dans le marais, parce que là-bas, les véhicules, ils ne pourront pas les suivre. Et puis, d'ici 60 ans, ils commenceront à tomber en ruine et l'humain reprendra le contrôle. Sauf que, franchement, ils iront vivre, les humains, là, pendant 60 ans, dans les marécages et dans les grottes. Ils perdront, ils parlent de peinture rupestre avec un camion face à un humain.
Ça aurait de la gueule dans les grottes de Lascaux.
Exactement.
35 tonnes.
Et... En même temps que cette idée un peu en forme de demi-espoir, de peut-être dans 60 ans, on pourrait s'en sortir, il y a une autre image qui arrive et qui écrase tout le reste. C'est celle de centaines d'usines qui fabriquent jour après jour de nouveaux véhicules de toutes sortes et des humains qui travaillent pour eux jusqu'à la mort. Et dès qu'ils sont morts ou qu'ils se rebellent, on les tue, donc ils sont morts. Et ils sont remplacés par un nouvel humain, comme nous, on remplace finalement les véhicules dès qu'on s'est lassé.
Mais là pour le coup, il projette son désespoir, parce qu'on ne sait pas encore qu'il y a autre chose que les véhicules qui sont contaminés par...
Non, en fait, il ne sait pas, c'est ce qu'il se dit, si on en est là. Enfin, s'il y a eu d'abord les camions, les voitures, les machins, jusqu'où ça va aller.
Un distributeur.
À ce moment-là, dans la nouvelle, il n'y a que les véhicules. C'est là où ça change sur les adaptations, on n'a vraiment que les véhicules.
Alors que le cuistot a besoin d'être remplacé parce qu'il est vieux et que donc le narrateur se dit que même la fille, il va falloir qu'elle y aille. Il ne va pas tarder à la réveiller. Il entend à l'est deux avions passer et il se demande s'il y a quelqu'un quand même qui les commande, ces avions.
Mm-hmm. Et quelle fin!
Retrouver la suite chez Disney Plus. Dans Planes.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur tout ça?
C'est quand même une fin sans espoir parce qu'à l'époque on n'a pas de véhicule électrique, donc on se dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuel, on est complètement condamné.
Et à l'époque on se dit pas qu'il y aura un jour plus de fuel.
Non.
À 73, il y a quand même la crise pétrolière.
Mais financière, pas.
Enfin, ouais.
Mais ce qui est vrai, c'est que cette fin, elle est très pessimiste. Ce qui n'est pas forcément le cas des nouvelles de King ou des romans de King en général.
Dans Brume, par exemple, ils vont tenter de trouver quelqu'un.
Ouais.
Là, ils sont juste bloqués. Dans 3 jours, ils n'ont plus à bouffer.
Ouais, parce qu'en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'il n'y a aucune communication, vu qu'il n'y a pas d'été, il n'y a pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant.
La cabine est dehors.
Donc, ils étaient en train de conduire, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui leur foncent dessus. Bon, en fait, c'est des véhicules. Ils se mettent dans une station-service.
Tu refais le résumé ?
Ouais, tu vois, en 30 secondes. Et finalement, ils ne sauront jamais ce qui se passe ailleurs, quoi.
C'est
parce que dès qu'ils essayent d'avoir un accès à l'extérieur, ils se font buter.
Exactement. Bon, si personne d'autre n'a rien à rajouter, je propose que, Grand Poil, tu nous expliques la place dans l'œuvre et la bibliographie du King.
Alors, on est parti pour 2 heures de dissertation.
Je suis ouais.
Vous êtes confortablement installé. Non, en vrai, c'est toujours compliqué sur une nouvelle aussi courte de trouver des liens, surtout que là, pour le coup, il n'y en a vraiment aucun avec le reste de l'œuvre, si ce n'est le message qu'on pourra retrouver dans d'autres romans, qui est l'asservissement de l'homme par la technologie qu'il a lui-même créée. Et le message est parfaitement illustré par la fin de la nouvelle, avec l'homme, avec un grand H, on pourrait dire, qui se résigne à entretenir les camions pour survivre. Alors qu'on verra un peu plus tard sur les adaptations qu'un bon bazooka et le problème était réglé.
Bim ! Ouais. Y a quand même Christine, non ?
Ouais, il y a Fury. Vite fait,
Oui, oui, il y a Christine et il y a d'autres nouvelles. Il y a la presseuse, il y a la pastorale. Oui, il en parle beaucoup.
Alors des
éléments.
Des éléments qui prennent vie d'eux-mêmes. On en retrouve régulièrement, ouais.
Et puis comme je disais à propos de l'impression que j'ai eue sur Marche ou Crève, il y a aussi, enfin, on retrouve quand même des gimmicks un petit peu de King, notamment le lien avec Brume est assez flagrant puisque c'est pareil, c'est des gens qui sont enfermés dans un lieu
clos,
commercial.
Ouais, un huis clos.
Vous vous souvenez de la date d'écriture de Brume ou pas ? Savoir si c'est avant ou après.
C'est plus tard, non ?
Après, il me semble. Enfin, de publication, c'est après l'écriture.
On ne sait pas, en fait.
Ok. Ouais.
C'est bon ?
Mais oui,
c'est
bon, ouais. Niveau genèse, il a quand même dit que lui, il est effrayé par les semi-remorques qui doublent sur l'autoroute parce qu'il ne voit pas qui est le conducteur à l'intérieur. Mmh. Il se dit potentiellement, il n'y a peut-être personne, il se tape des délires un peu comme ça. Et il a dit aussi qu'il a eu la vision très claire de la technologie se libérant de notre capacité à la contrôler. Donc ça rejoint ce que tu disais. Mais on n'en sait pas plus.
Mais oui, effectivement.
Bon, on a fait le tour, du coup.
Oh oui,
bon, ok, on va passer...
Le premier projet d'adaptation, il est venu par le producteur Milton Subotsky, qui a acheté 6 histoires du recueil Danse Macabre et qui voulait faire des films à sketch, avec notamment une anthologie intitulée Les Machines sur les cauchemars mécaniques qui mélange 3 histoires de King, donc Poids Lourd celle-ci, et les 2 autres dont je parlais tout à l'heure, La Pastorale et La Presseuse. Le projet ne voit pas le jour, faute d'argent comme souvent chez King, mais le producteur avait glissé à King l'idée qu'il pourrait réaliser le film. À ce moment-là, il refuse, il préfère son métier solitaire d'écrivain et surtout, il a peur de l'échec. Finalement, il cédera face à l'insistance de Dino De Laurentiis, avec qui il collabore déjà sur plusieurs films, à savoir Dead Zone, Cat's Eye et Peur Bleue. Et qui a racheté aussi les droits de 6 nouvelles de King. Donc, il cède pour écrire le scénario, puis pour diriger Poids Lourd, en se disant qu'il peut faire mieux que les mauvaises adaptations qu'on lui a déjà infligées, ou pas.
Et il se coupe encore un gros rail de coke.
Oui, c'est ça, entre 2 rails de coke, il se dit ouais, vas-y, je vais le faire.
Ouais, c'était quand même sa meilleure période là, niveau drogue.
Oui, enfin, là on est en 70, plein dedans. Ouais, drogue, alcool, on est en plein dedans.
Et ça se voit.
Ça se ressent, ouais. Donc il a en fait commencé à croire aussi il y a une caméra dans votre tête, qu'on lui répète souvent sur son style d'écriture. Et il aime beaucoup le cinéma, donc ça le titille quand même depuis longtemps de s'y mettre. Il aime aussi la mise en abîme de Stephen King, adaptée par Stephen King. Grand mal lui en a pris. En 1986, sort Maximum Overdrive, le seul film réalisé à ce jour par King, et il le regrette, comme il l'a dit à sa conférence de presse parisienne en 2013. Il a réalisé et écrit le scénario d'après sa nouvelle, étendant son histoire à tout type de machines. Donc là, on n'est plus seulement sur les véhicules. et en incluant, à la demande des producteurs, une explication à l'éveil des machines, une comète.
Parce que pourquoi pas ?
Parce que
oui.
Parce que
oui.
C'est magique.
Ah, voilà. Alors moi, j'identifie trois problèmes majeurs à ce film. Déjà, l'équipe était italienne.
Ouais.
Elle était vraiment très généreuse.
Là, sur le côté réalisation, l'équipe était italienne. Il y avait un traducteur, mais il était débordé. Et sur le tournage, King, il n'arrivait pas à communiquer avec le reste de l'équipe. On l'a dit, à l'époque, il se droguait. Il était sous coke H24 et il se souvient de peu de choses du tournage tellement il était drogué. Et surtout, King, il est auteur, il n'est pas réalisateur. Et réalisateur, c'est un métier qui s'apprend. Donc en plus de la drogue, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait et personne n'osait lui dire qu'il était déjà connu à l'époque.
La bonne recette pour un bon film.
De la drogue et aucune expérience.
Et pourtant, King, il était très excité au début du tournage, avec toutes les cascades et les explosions. Il voulait toujours plus de sang, plus de gore, il se lâche sur l'hémoglobine. Et il y a même des scènes qu'il tourne en deux versions, une soft et une sanglante. Nous, dans la version finale, on a plus les soft quand même. Il déchante vite, par contre, parce qu'il avait déjà déchanté au casting. Parce que, lui, il insistait pour avoir Bruce Springsteen dans le rôle du cuisinier. Mais le producteur, lui... écoute, on vit avec son époque.
Pas cher.
Ah oui. Mais le producteur, lui, il insistait pour avoir Emilio Estevez, qui est un acteur en vogue à ce moment-là et qui se trouve être le fils de Martin Sheen. Mm-hmm. King perd la bataille et l'acteur sera nommé comme pire acteur au Golden Raspberry Awards, alors que King est nommé comme pire réalisateur.
Pour le coup, Emilio Estevez, pendant tout le film, t'as l'impression qu'il est en pleine crise d'allergie, il a les yeux tout rouges, qu'il pleure.
Peut-être la coke aussi.
Ouais, peut-être qu'il a traîné avec King dans son roulotte.
Il a fait tourner.
C'est quand même un film qui a eu deux prix.
Oui, mais c'est non, pas mais les prix que tu cherches
point,
à avoir.
Deux prix. Oui.
Il aurait fallu que tu le regardes et que tu nous dises s'il vaut deux prix.
Oui. Donc pour continuer dans ce qui fait déchanter King, il y a un éclat de bois qui blesse le chef-op à l'œil au moment où il y a une tondeuse à gazon dans les 20 premières minutes du film. Ça passe sur une souche, bim, dag, dans l'œil du chef-op, qui va le perdre après deux opérations. Donc le tournage s'interrompt pendant deux semaines et se termine avec un chef-op borgne qui fera plus tard un procès à King et à une douzaine d'autres personnes, parce que pourquoi pas. Il demande 18 millions de dollars et ça se règle à l'amiable, mais on ne connaît pas le montant du chèque. En tout cas, le chèque, il est sûrement payé avec l'argent des livres et pas du film, puisque le film y rapporte au final 7,5 millions de dollars pour un budget de 9 millions.
Ah, surtout, c'est con d'avoir perdu un œil sur une scène aussi nulle.
En plus,
ouais. Si encore c'était après, genre la scène qui a fait rêver
ouais,
l'humanité.
Ouais, tu vois, un saut de 30 mètres. Après, le tondeuse qui avance. Quoi.
Explique peut-être après la fin de la réalisation du film.
Il hein. y a des doutes parce que dans les bonus de Maximum Overdrive qui est sorti, la version collector, je crois qu'elle est chez EST Distribution, dans une interview, il y a un homme qui dit « Ouais, enfin, il revient après deux semaines alors qu'il a perdu son œil, c'est un peu chelou, mais on ne retrouve pas vraiment trace de est-ce qu'il a vraiment perdu la vue d'un œil ou pas. Mmh. » En tout cas, il a pris de l'argent au passage. Et en fin de tournage, pour couronner le tout, ils se prennent un ouragan qui touche toute la Caroline du Nord, là où ils ont leur studio. Donc lui...
Pardon.
C'est le tournage de l'enfer. C'est un enfer.
Trop bien.
King, lui, il trouve que c'est la pire adaptation de son travail, mais beaucoup de fans ne sont pas d'accord parce que depuis 86, on s'est quand même tapé un paquet de mauvaises adaptations. Déjà, l'humour est assumé et parfois il fonctionne. Et si on ne ressent pas de danger et que c'est globalement absurde, au moins, ça enthousiaste.
C'est un nanar, quoi.
Ouais, enfin c'est un film de cocaïnoman qui peut se laisser regarder avec du second degré, qui vieillit plutôt bien. Non, ne vous droguez pas.
Il n'y a pas d'effets spéciaux, donc c'est facile.
Oui, et puis il vieillit pas si mal que ça. Il se regarde mieux maintenant qu'à sa sortie, en fait, parce qu'on a appris à apprécier les films un peu nuls.
Non, toujours pas.
Exemple typique de nanar, en fait. Il l'a réalisé en étant vraiment très premier degré. Et le film est nul et se laisse regarder.
Oui, puis il y a une bonne musique. Enfin, il vaut le détour avec la bande originale d'ACDC, qui était une volonté de King, qui leur a juste passé un coup de fil. Donc les mecs ont dit OK pour céder le droit de leur chanson et en faire une inédite qu'on a entendue en intro qui est Who Made Who, et aussi deux titres instrumentaux inédits.
Ce qui est pas mal avec la musique aussi pendant tout le film, c'est qu'elle démarre à des moments random et elle se coupe à des moments random dans des scènes ou des moments où ça n'a aucun sens.
Bah ouais.
C'est au montage. Ah putain, c'est vrai qu'on a la bande son d'ACDC. Allez, vas-y, Jean-Mi, mets en bout.
Sauf que le verdict ne pardonne pas. Échec au box-office. Sur Rotten Tomatoes, il se prend 17% par les critiques et 50% par les spectateurs. De Laurentiis, il abandonne ses autres projets d'adaptation de King et lui, King, il retourne à sa machine à écrire. Dans le film, on notera quand même le caméo de King qui s'auto-traite de asshole, petite traduction au trou du cul, hein, par un distributeur de billets, et on a la présence d'un gripsou au cul d'un camion. Mm-hmm. Le Dixie Boy, lui, il est réutilisé dans un épisode de la série Heaven, qui est librement inspiré de Colorado Kid. Et je sens bien que tout le monde est déçu parce qu'on n'a pas encore eu de point culotte. Mais
oui.
Il se peut que j'en tienne un. Sur le tournage, sur le tournage, King, entre la cocaïne et toutes ses superstitions, il a très peur. Donc, pour se donner chance, il accroche un bout de lingerie de sa femme à sa ceinture. Alors, on ne sait pas si c'est une bretelle de soutif ou un string, mais il accroche quelque chose.
Il a vraiment une femme merveilleuse.
Moi, j'aimerais que les gens qui nous écoutent, alors soit là dans la salle, soit plus tard quand vous l'écouterez chez vous, envoyez-nous des petits messages pour nous dire si vous faites pareil quand vous avez besoin de courage et de soutien.
Mais pas
de votre femme
pas
ou de votre homme,
si
ou de qui
problèmes.
Vous voulez, un bout de sous-vêtement de quelqu'un d'autre.
Pourquoi pas. Et on va quand même mentionner ce qu'il y a une deuxième adaptation qui est sorti en 97, qui s'appelle Trucks, les camions de l'enfer, qui est un téléfilm du néo-zélandais Chris Thompson. Moins de mauvais goût, mais aussi moins de budget, le film s'affranchit des dénonciations consuméristes. Le problème de ce film, enfin le gros problème ouais. parmi les 20 000, c'est qu'ils en ont fait un truc plat en traitant avec trop de sérieux des machines qui se révoltent, même en expliquant ça avec le passage d'une météorite façon Tommy Knockers.
Et ah, mais je l'ai pas lu, le spoil, là.
Ça change rien.
Ouais,
non, non, t'inquiète. Bon.
Et aussi d'un nuage toxique qui vient d'une base militaire façon le fléau. On en regrette presque la folie et l'absurdité de Maximum Overdrive. Et si on devait élire un top 3 des pires VF des adaptations de King, je pense que là, on tient un bon prétendant au titre.
Je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un meilleur film que Maximum Overdrive.
Non.
Ah non, 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 non.
Si, si, parce qu'il y a la scène du petit camion à jouets qui tue un facteur.
Oui, non. Ça, d'accord.
Ah, non, ça, non. Qui c'est qui l'a envoyé ? C'est toi qui me l'as envoyé
C'est impossible.
Et bien, moi, c'est à ce moment-là que j'ai dit je ne les regarderai pas, ces films, c'est mort.
Alors que dans Maximum Overdrive, tu vois rien.
Attends, oui, mais tu t'amuses au moins.
Mais ça explose. Non,
déjà, ça explose.
Il y a des explosions de ouf.
Il y a des cascades de ouf. Les mecs font des sauts de 5 mètres alors qu'ils sont juste en train de glisser dans le pont.
Oui, mais dans Trucks aussi.
Non, non, dans Maximum Overdrive, en fait, tout est too much.
Non, mais Julien, tu t'es endormi devant Trucks. Tu sais pas ce qui se passe dedans.
Si, alors, ce matin, je l'ai re-regardé. C'est la première fois de ma vie que je regarde un film en 1,5.
Oui, je l'ai regardé en 1,5 aussi.
Et franchement, il devient intéressant en 1,5. Tu perds pas trop de temps dans les longueurs et tout. Et c'est marrant, ça fait un petit côté Bénil. Mais pour en revenir à, pour en revenir à Maximum Overdrive, je trouve que la VF, pour le coup, elle est excellente. Quoi.
Oui, alors là, oui.
Oui, mais je parlais bien de Trucks pour la mauvaise VF. Bon. Ah oui.
Mais je trouve le point fort de Trucks par rapport à Maximum Overdrive, c'est que dans Maximum Overdrive, on s'en fout des personnages. Il y en a un qui meurt, on s'en fiche parce qu'on le connaît pas. Alors que dans Trucks, ils installent quand même un petit peu les personnages, leur histoire. Donc quand il y en a un qui prend des risques, ben, on le connaît un petit peu. Quoi.
Dans Maximum Overdrive, il essaie quand même de nous installer l'histoire d'amour entre le cuistot justement et la seule fille de...
Oui, l'histoire d'amour la plus rapide.
Ouais. C'est vrai je te rencontre à Je baise très vite quand même.
On a ça dans Brume, il n'y a pas besoin d'un film.
C'est pas faux.
Le narrateur avec l'instite, là.
Mais c'est la fin du monde, il faut
s'occuper. Non, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais je n'ai aucun problème avec le « bonjour, on se connaît pas, on baise », oui. C'est pas ça la question. C'est que c'est dans le film, mais c'est dans Brume aussi.
C'est vrai, tout à fait, voilà. T'as tout à fait raison.
Ça colle avec King.
C'est pas fifou.
Non, et puis je trouve, pour le coup, pour revenir à Maximum Overdrive, je trouve l'histoire mieux que la nouvelle, en fait. D'avoir l'explication avec la comète, d'avoir un peu plus d'espoir parce qu'ils arrivent à s'échapper finalement dans le film.
Oui, et puis qu'il n'y ait pas que les véhicules, genre le couteau électrique qui saute sur la main de la femme, c'est magique.
Ou le distributeur de canettes.
Le distributeur de canettes, franchement, c'était drôle. Le distributeur de canettes qui jette des canettes sur des gosses, qui tue quelques-uns.
Des scouts.
On a tous eu envie de le faire. Hein,
ouais.
Pour reconnaître.
De jeter des canettes sur des gosses.
Ouais.
D'accord.
Mais bon.
Bah, moi, j'ai rien à dire, je les ai pas vus. J'ai vu les extraits que j'ai vus m'ont largement suffi.
Honnêtement, regardez Maximum Overdrive avec quelques bières.
Il y en a dans le public, 500, vous êtes devant nous, qui l'ont vu. Et il y en a combien qui ont aimé ce film?
Ouais.
Merci.
Quelques-uns.
Oui, il est trop bien.
Bon. Ben, si on n'a rien d'autre à dire, je propose de passer à la partie que tout le monde attend le plus, à savoir la théorie de Urd.
Oui.
Alors,
Réfléchir et créer une théorie est à la portée de tout un chacun. Dans les deux films, ils ont voulu faire mon boulot, avec plus ou moins de succès. King lui-même a expliqué que c'était l'influence de la comète Rhea M qui avait amené un ovni qui avait réveillé les machines pour reprendre le contrôle de la planète. Un personnage s'exprime également. Je le sais, moi. C'est un coup des politiciens qui veulent faire disparaître notre région. Le gouvernement fait des expériences et nous lui servirons de cobayes. Et un autre de répliquer. La NASA a un programme SETI dont le Congrès a stoppé le financement. Mais un groupe de scientifiques a réuni des fonds privés pour continuer les recherches. Ils l'ont appelé le projet Phoenix. Donc je précise, le projet SETI existe bel et bien, mais à ma connaissance, il n'a jamais été arrêté et fait pour un autre
truc. Tout le monde a eu le petit logiciel sur son ordinateur.
Oui, exactement. Moi, c'est à peu près tout ce que je connais. C'est pour chercher de l'intelligence.
Détecter les signaux, ouais, venus voilà. De loin.
Ah oui, l'écran de veille, là.
Oui. Eh bien... Messieurs, parce que c'est des messieurs qui font les théories, permettez-moi de vous dire que vous avez des progrès à faire dans vos théories. C'est un métier, vous savez. Alors je sais que vous avez des contraintes techniques et scénaristiques, mais ce n'est pas une excuse. Je vais vous dire la vérité, la véritable théorie, la seule et l'unique. Cette comète Rhea M existe bel et bien et irradie notre planète tous les 200 ans environ. Sa particularité est qu'elle essaime une variété magique de cathères qui va envahir le globe. Et le cathère, vous connaissez son petit nom ?
Non.
Non. Non.
C'est l'herbeau-chat. Les félins de salon vont alors être sous l'influence de cette plante et quitter leur foyer. Se rassembler et former une armée de chats ninjas. Alors, c'est pas exactement des ninjas, mais c'est pour simplifier. Ils vont élaborer un plan pour nous tuer, car balancer des vers ou courir dans nos jambes ne suffit pas. Et quoi de plus meurtrier que des chats invisibles qui peuvent conduire des camions ? Quoi de plus malin que des enfoirés de chats pour négocier de l'essence ? Et quoi de plus fou que des chats pour tout faire exploser ? D'ailleurs, certains ont même évoqué que les chats ne viennent pas de la Terre, mais de contrées lointaines. Coïncidence ? Il y a 200 ans, ils avaient envahi les chariots et transformé les roues rondes en carrés. Je vous raconte pas le bordel sur les chemins de terre. Et dans 200 ans, je vous parie qu'ils prendront le contrôle de nos navettes autonomes. Ça va être un beau massacre. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, le cathère magique s'estompe avec la comète et ils redeviennent des chats normaux, retournant à leur paresse légendaire. Et parfois, dans leurs rêves, ils revoient les camions et les maisons exploser. C'est alors qu'ils sourient et que vous ne pouvez vous empêcher de leur gratter le ventre. Donc pour le petit mot de la fin, longue vie aux théories farfelues et vive les chats ninjas qui explosent.
Oui.
Bravo. Bravo.
Ça sent quand même fort le vécu, non ? T'as des chats ?
Les films m'ont tellement inspirée que c'était facile.
Moi, je veux voir l'adaptation de cette théorie.
Ah, moi, ce serait trop bien.
Celle-là, je la regarde.
Mais il y aura beaucoup d'explosions. Hein.
Et donc, nous, on avait, comme d'habitude, joué le jeu. Je pense que personne n'avait lu la théorie avant. Pourtant, on l'avait, on aurait pu. Non. Mais on voulait la découvrir en direct.
Elle est très bonne.
Full direct. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur quand, sur le résumé, vous étiez là. Ouais, ils sont comme des chats et tout. Je dois...
Non, mais du coup, ça appuie ta théorie.
Oui, oui.
Ouais. Mais bien sûr, moi, ça me paraît assez évident que c'est ça.
Oui.
Donc, je te propose de prendre de la coque et de faire le film. Non, fais le film, juste.
Juste le film. Il n'y a pas assez de budget chez Podcut.
Ah ouais, mais je peux en trouver de la pas chère, hein, si jamais.
Ok.
Ouais.
Eh bien, normalement, là, c'est l'heure de la question des questions des auditeurs.
Hmm.
Mais
du jingle.
Les auditeurs, on les a devant nous.
Ouais.
Donc, on va vous passer le micro et écouter ce que vous avez à nous demander.
Alors, qui a des questions dans la salle ?
S'il vous plaît, posez au moins une question.
On en a 50 à chaque fois, on s'en sort pas d'habitude. Là, si on n'en a pas, c'est pas normal. Ah.
Bonjour à l'équipe. Alors voilà, je voulais, pardon, c'est bien comme ça. Je voulais savoir ce que vous avez préféré, la nouvelle qui est plutôt absurde, on n'a pas d'explication, ou le film, enfin, ou les adaptations, quelle que soit leur qualité, qui essaient d'apporter une explication de pourquoi les monstres se mettent à, enfin, viennent à la vie et du voilà, l'histoire des comètes et tout, qui n'est pas du tout dans la nouvelle à l'origine.
Alors, moi, je préfère sans explication.
Ouais, moi, pareil.
C'est plus simple. C'est, ça entretient le mystère et justement, ça évite d'avoir une théorie plus ou moins con de. Il y a une comète qui passe. Oh mon Dieu, ça affecte les camions. J'aime autant pas savoir.
Moi, j'avoue que l'explication que vous avez donnée, donc donnée par les films, je préfère ne pas savoir.
Après, Maximum Overdrive me donne vraiment trop d'explications. Il y a même un placard en texte à la fin qui explique tout.
Avec la voix.
Avec une voix, c'est horrible. Mais Trucks, c'est plutôt des gens à l'intérieur du film qui ont des théories. Et donc, qui on n'a pas vraiment la réponse. Et la fin de Trucks se finit sur, justement, un cliffhanger, on va dire.
Tu peux nous le révéler. Hein.
Tu crois qu'ils avaient prévu un 2 ?
Ah, peut-être, ouais.
Ça pourrait.
Et du coup, je préfère sans explication. C'est pour ça aussi que je préfère Trucks.
Oh, clairement, moi, je préfère avec les explications.
Ouais, comme d'hab, quoi.
Ouais. Ouais, j'aime pas. En plus, il est pas mauvais quand il donne des explications, généralement. Donc,
On reparle de Jesse ?
Non.
On peut, mais à mon avis, tu vas faire des cauchemars.
Tu en as qu'une heure. Je tiens à préciser que cette question a été posée par la petite Isa, qui est notre meilleure VRP sur Twitter.
Oui,
merci Isa.
Une autre question ?
Bonjour. Bonjour. À votre avis, est-ce que... je suis Zu. Bonjour.
Bonjour Zu.
Bonjour Zu.
Est-ce qu'on pourrait voir dans cette œuvre une sorte de message contre le passage à 80 km/h des routes ?
Alors déjà, ça fait quoi en miles parce que...
Sortez ce gilet jaune, vite.
Il faut vraiment qu'on réponde à la question.
55-60.
Ouais, c'est un 6.
Ouais.
Mais est-ce que les routes aux États-Unis ne sont pas déjà à 80 km/h quand on les convertit ?
Si, c'est infernal.
Si, c'est plus bas. Ouais.
C'est plus bas en général. Voilà. Ouais. Donc peut-être.
Donc non.
Si, justement, peut-être.
Ils demandent leur liberté.
Peut-être à l'époque.
Ils en ont marre d'être bridés à 80. Quoi.
Non, mais peut-être que, oui, en effet, au début des années 70, ils sont passés de 90 à 80, peut-être.
Donc c'est ce qui nous attend. Merci, Zu.
Quelqu'un d'autre ?
Ah, Octave a une question.
Et dis qui es-tu dans le micro ?
Moi, je suis Winnie.
Bonjour.
Je voulais savoir votre sentiment, une comparaison entre Christine, et comme on est sur deux machines, quoi, autoroutières, on va dire, automobile, pardon. Votre sentiment entre Christine et cette nouvelle-là, est-ce que vous y voyez la même intention, même si Christine, c'est plus un démon, je crois, si je me souviens bien.
Je vais demander à ce qu'on ne spoile pas un bouquin qu'on n'a pas encore spoilé. Donc répondez. Attention.
Ou le film ? Non, même pas, non. Non.
Christine est une femme qui se transforme en voiture.
Non.
Christine est un ode au féminisme.
Non. On va arrêter. Alors, on va faire Christine la prochaine fois. On va arrêter avec ça. Oui. Après, dans Christine, c'est juste une voiture et on a plus ou moins la raison. Enfin, vite fait, quand même. C'est pas très clair, mais on vu que c'est qu'une voiture, ça. Je pense qu'il y a une corrélation sur la thématique, qui est la prise de pouvoir des machines sur l'homme, parce qu'on devient complètement dépendant. Mais je vois, alors on le voit pas, mais Grand Poil, il fait non de la tête. Moi, je voudrais régler quelque chose tout de suite. Non, Christine n'est pas une histoire sur la jalousie des femmes. C'est une légende urbaine.
King lui-même l'a dit.
Mais tu sais pas, tu l'as pas lu.
Oui, mais qui prend de la coque ?
J'ai vu le film.
Je pense qu'effectivement il y a des similitudes, mais Christine, si je me souviens bien, c'est vraiment une voiture qui veut garder son chauffeur que pour elle, quoi.
Oui.
Et qui tue les prétendants qui pourraient lui piquer le chauffeur.
Donc une femme jalouse.
Oh, ça
merci
suffit.
Grand Poil.
Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est pas vraiment le même thème, même si on parle d'un véhicule. Mais là, dans Poids lourd, c'est vraiment les véhicules qui veulent tuer tout le monde et prendre le dessus, tandis que là, c'est une voiture sur une personne.
De toute façon, Christine, c'est une furie, c'est ça ? Oui, la furie, elle est morte au début du bouquin, au début de la nouvelle. Il tue Christine et après on commence l'histoire.
Mais ouais, non, je pense pour le coup Brume, c'était une bonne comparaison. Je pense que Brume et ce côté huis clos, c'est peut-être le roman qui ressemble le plus, non?
En vrai, sur un format comme ça, ce qui ressemble le plus, c'est les autres nouvelles, genre la pastorale avec tondeuse à gazon, la presseuse avec une, la presseuse surtout.
Oui.
Ouais. Qui là, on est sur le même schéma, quoi. C'est une grosse machine qui tue tout le monde. J'ai rien spoilé. Hein.
Je l'ai pas encore lu. J'ai la BD. Je l'ai pas encore lu.
Elle avale des gens.
Une autre question? Non, parce qu'on n'a pas encore fait les 60 minutes et du coup, on a encore 10 minutes à tenir là.
On est bon.
On est bien.
Là, on est bien, on va rester en fait.
Personne? Ah si.
Encore?
Ah. Là.
Dehors, le là. Gilet jaune, là. On a dit.
Ça y est, ça y est.
Ils se battent pour poser des questions.
Qui es-tu?
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour. Non, je voulais savoir si vous aviez choisi cette œuvre parce qu'on est au Paris Podcast Festival et que ça représenterait les jeunes petits podcasteurs dans leur voiture, et les voitures, ça représenterait les gros labels et les grosses majors qui les empêchent de sortir.
Ok, le pavé dans la main.
Est-ce qu'on doit répondre sérieusement à cette question? Est-ce qu'on dit la vérité?
Non, mais on peut dire pourquoi on l'a prise, par contre.
Ah oui, parce c'est ce que je dis. Est-ce qu'on dit la vérité?
Oui, on peut dire la vérité.
Pages,
ouais.
La vérité, c'est qu'elle fait 20 pages et qu'on n'avait qu'une heure. Et que les films sont facilement regardables et résumables.
Oui, et qu'on voulait un truc un peu emblématique. Donc, vu que l'adaptation, c'est la seule que King ait réalisée, on se dit c'est l'occasion.
Voilà. Mais elle faisait 20 pages surtout.
Pomme insiste.
Bah, s'il avait fait un film sur le fléau, si c'était lui qui l'avait fait, on n'aurait pas fait le fléau.
Bah, techniquement, il l'a fait parce qu'il a écrit le scénario, le deuxième qui fait 3h30.
Aucun.
On a une autre question, je crois.
Oui?
Oui, j'avais une question un petit peu plus...
Qui es-tu?
Bonjour, je m'appelle Fanny. J'ai présenté le podcast au début, tu sais. J'avais une question. Vous faites un podcast de littérature. Vous lisez donc une œuvre par mois. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué? Je pose vraiment la question sérieusement de faire un podcast où vous devez vraiment lire un truc tous les mois, même si vous êtes nombreux. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué à suivre comme rythme?
Il suffit de ne pas lire.
Voilà. Alors, voilà,
on a la réponse de la mauvaise élève.
Ça dépend pour qui. Grand Poil, je crois que toi ça va. Aymeric aussi.
En plus, moi, la plupart du, quasiment tous, je les avais déjà lus, donc c'est vrai que c'est plus facile à relire et faire la prise de notes derrière.
Toi, t'es une machine, Grand Poil. Toi, oui. Tu lis un livre par mois plus des livres à côté, quoi.
On s'occupe.
Ouais, moi, perso, je galère grave parce que je lis lentement, je prends les notes en même temps. Il y a des fois, c'est compliqué. Hein. Des fois, il me reste 200 pages à lire avant l'enregistrement dans 2 heures. C'est pas simple.
Non, par contre, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la longueur du livre a une influence sur les livres d'après. On essaye d'alterner entre un long et un moins long pour, déjà pour nous, pour le monteur aussi, pour éviter de faire des épisodes de 5 heures.
7 heures pour le film.
Mais jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à tenir le rythme.
On a réussi.
Un an et demi, 100 mois, avec un épisode tous les mois. Quoi.
Mmh. Exactement, sans faire de pause l'été, nous. Je dis ça, je dis rien.
On a trois teams, hein. On a vraiment ceux qui lisent très très vite, celles qui ne lisent pas. Et...
J'ai relu le fléau quand même.
Et Poids Lourd. Pavé.
Et Poids Lourd. Et Retailer, c'est la rédemption de Shawshank.
Comme tous les mois, non?
Oui, tous les matins au petit-déj, je relis la nouvelle.
Et encore, Pomme, Julien et moi, qui faisons un concours, ça, lequel aura fini en dernier.
C'est vrai que parfois, on finit 2 heures avant l'enregistrement.
Des fois, moi, j'ai déjà fini après le début de l'enregistrement.
On a une autre question.
Bonjour.
Qui es-tu ?
Je suis Dame. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Je tenais à vous féliciter parce qu'il y en a. Les personnes qui vous écoutent ne l'ont pas en vidéo. Mais vous avez chacun une tenue spécifique. Vous êtes habillé en routier, c'est ça ?
Ah, t'aurais exactement. Dû faire quoi, en culotte blanche.
Donc oui, alors...
Ouais, c'était la chemise à carreaux ou la culotte.
Les chemises de trucker. Et Julien, c'est un t-shirt de Carmageddon, je vois, c'est ça?
Mais non.
Ah mince, je le voyais mal. J'avais l'impression que t'étais allé jusque ça. Mais c'est déjà pas mal.
Bah, tout le monde quasiment a des t-shirts en lien avec King.
Il y a un t-shirt Pet Sematary. Moi, j'ai un t-shirt Shawshank. Hein, ça, voilà,
Urd, elle a un chat qui tire des lasers avec les yeux.
C'est pour aller avec la théorie.
Le chat qui explose.
Moi, j'ai un débardeur noir et Grand Poil, il est tout nu sous sa chemise.
Ouais.
Et on a tous des magnifiques pins offerts par Aymeric. We all
c'est
float
vrai, on va tous flotter après.
Ils sont magnifiques.
Voilà. Et le badge podcut.
Évidemment, le badge podcut. Si les questions, c'est fini, on va peut-être clôturer.
Non, attends.
Une dernière.
Bonjour, je suis Paula. Est-ce qu'il y a un comics? Parce que j'ai la flemme de lire.
Non, mais en vrai, en comics, ça pourrait très bien rendre. Il y en a très peu des comics sur qui on avait parlé. Il y a le fléau, il y a la tour sombre, mais qui reprend un bout de la tour sombre. Là, ils vont faire Sleeping Beauties. Ils ont fait la nouvelle La Pastorale. Et il me semble que c'est à peu près tout. Mais non.
Merci.
Désolée.
Bon, on est sur la fin.
Je crois qu'il y avait... Non. Allez, vas-y, fais-la.
C'est quoi le prochain bouquin?
Quoi?
Vu que celui-ci faisait 20 pages, c'est quoi le prochain?
Ah, mais on va le dire dès qu'on a fini les questions.
C'est prévu.
Ne spoil pas la conclusion.
Ben, on va pouvoir répondre du coup.
Ce ne sera pas l'intégrale de la Tour sombre. On va pas compenser.
Oh. Vas-y.
Eh bien donc, on répond d'abord, on le dit après. Oh, quel suspense, on fait comment?
C'est toi qui mène le jeu.
C'est moi qui décide. Ouais. Eh bien, donc, notre prochain bouquin, ça sera Shining, qui était très attendu par beaucoup de monde. Vous avez décidé sur Twitter. On avait envie de refaire du Bachman parce que ça fait un moment.
Attends.
Elle a été perturbée par le t-shirt de Julien.
C'est pas un verre d'eau,
n'importe quoi.
Menteuse.
Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est tous regardés en mode, mais elle est sérieuse.
C'est Running Man.
Qui n'a rien à voir.
Ouais, Running Man, c'est un peu différent. Le film est un peu moins bon aussi.
Je sais pas pourquoi j'ai dit. En plus, j'avais bien en tête le bon, j'ai dit Bachman. Hein, bon. Donc, le prochain qu'on fait, c'est Running Man, qui était attendu par beaucoup. Attendez, on l'a fait. Running Man!
Ouais!
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Bachman, plus d'un an, parce que le dernier, c'était Marche ou Crève. Et on avait envie d'en refaire un peu, surtout avec Urde.
Oui.
Voilà. Donc, ça sera celui-là que vous pourrez écouter. Donc, cet épisode, il sera disponible mi-novembre.
Oui.
Et Running Man, mi-décembre.
Oui.
Donc on boucle 2019, on verra bien en 2020 ce qu'on fait. On va pouvoir donc vraiment finir. Donc on rappelle que Le Roi Steven est un podcast du label Podcut.
Oui.
On rappelle qu'on a un Patreon si vous voulez nous aider à financer des ballons, les pins, les chemises, voilà. Donc n'hésitez pas non plus à donner une petite pièce par mois, enfin tous les mois ou une de temps en temps. On peut rappeler aussi que, vu que ce livre est sorti, Danse Macabre est sorti en poche, on pourra le faire gagner après la sortie de l'épisode sur les internets. Et puis surtout...
On est à jour au niveau des concours qu'on a en ce moment.
On est à jour au niveau des... Non, il y aura des concours qui viendront plus tard. Tu veux qu'on fasse la liste des concours qui vont venir?
Non, peut-être pas, mais il y a beaucoup d'actualités King, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de partenariats et de concours. On n'est pas un compte que à concours.
Ben là, on a fait les concours du dernier bouquin qu'on a fait.
On a fait ça, on a fait le Forum des Images.
On a fait gagner ça. Sleeping Beauty, on ne l'a pas encore fait. Chut
voilà.
Oh, on ne l'a pas annoncé encore, celui-là. Il y a eu le Forum des Images aussi pour la session.
Et puis, il y aura peut-être un hors-série sur Dr. Sleep aussi.
Ça, écoute, on en reparle. Hein, okay. On ne fait pas la réunion maintenant.
De toute façon, Pomme ne le verra pas.
Je ne verrai pas Dr. Sleep.
Et sur les réseaux, c'est quoi notre nom? Pour nous suivre.
Le roi Stephen, du coup, sur les réseaux. Si vous tapez Stephen, vous ne nous trouverez pas. Facebook, Twitter, Instagram. On commence à avoir fait le tour, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez des choses à rajouter?
Est-ce qu'on a le badge corporate de Fanny?
De quoi?
Je demandais si on avait le badge corporate podcut de la part de Fanny au fond qui nous observe.
Laval, est-ce qu'on a Laval?
On a Laval, oui. Eh bien, j'ai la joie de vous annoncer qu'on devait finir à 13h15 et qu'il est 13h14. Donc, voilà. Je suis très heureuse. Et juste avant, donc, merci au Paris Podcast Festival pour nous avoir donné la parole. Et merci à PA pour le son et la gestion.
Merci.
Merci à tous.
À
bientôt.
commence à faire le test de voix, si vous ne pouvez pas savoir.
J'entends. Ah. On a des micros. Des casques. Ouais, c'est bon. C'est bien le problème.
Ouais. Alors.
Bah, c'est pas mal. Je m'entends bien.
Alors, n'hésitez pas. Alors, je sais que vous faites du podcast. Bien parler dans vos micros.
T'inquiète, on est fouette. Ouais. Bien, ouais, bien. Ouais, carrément là, ouais.
Ah oui, carrément collé quasiment.
Ouais. Micro dans la bouche.
Exactement. Micro dans la... Ah oui, d'accord, ah, oui, ok. Ah, là, là, là. Très, très proche.
Exactement. si vous faites ça, ce sera parfait.
On peut pas les rapetisser.
Bon, après, ça va rien. On a le retour dans...
Puis on s'entend entre nous, quoi.
Okay.
Non, mais surtout, on va s'entendre dans les enceintes.
Oh, ok. Ouais.
On
oui,
de les mettre.
Ah oui.
Ah ouais, d'accord.
Attends, on veut avoir l'air pro ou on veut pas avoir l'air pro?
Merde. On est habitué.
On n'est pas habitué.
Je vous mets la sono juste après. Là, pour l'instant, je vais mettre mes niveaux tranquillement. On va commencer par toi.
Par ici?
Allez, bah ça sera
bien. Ok. Bon, bah c'est parti alors.
Je pense qu'il faut parler plus près.
Plus près encore?
Ouais.
Ouais, c'est parfait.
Ok. Bon, bah je vais. Ah putain, ouais.
Tu peux le lever si tu veux.
Je vais voir.
Ah, oh, ça va.
C'est surtout pas le faire tomber.
PA.
PA, enchanté.
Ok. C'était la question.
J'ai essayé
d'être discret, mais ça marche pas. Et du coup, après, on va faire un petit tour comme ça.
Ouais.
Voilà.
En commençant par...
Pomme.
Pomme. Moi, c'est Pomme. Bonjour, je m'appelle Pomme. Mais je parle dans le micro, normalement.
Oui, salut, moi c'est Stephen King. Écoute, c'est le moment ou jamais. Hein. C'est maintenant.
Bonjour, bonsoir, hello, ça va, blablabla.
Bla, bla. Le sosie officiel français.
Bonjour.
Bonjour, ici le sosie de Stephen King. Bonjour, ici le sosie de Stephen King, c'est bon?
Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui ? C'était un lapin qui ?
Une dernière ? Bah écoute, s'il y a besoin de fait de tester jusqu'au bout, on va y aller.
Voilà.
Bonjour
public.
Bonjour Thomas.
Ah, bonjour. Ils nous entendent. Hello.
Merci.
On fait un selfie.
T'as le grand angle ?
Non, par là, penche-toi.
Pardon.
Tu m'as compris, c'est toi qui faisais.
Voilà.
C'est bizarre. Je vais essayer de ne pas rire trop fort dans le micro.
Vivons.
Bon, pardon, bonjour, parlons, bonjour.
Alors vous avez pris quoi, petit déj ?
Ça va, public ?
Ouais, moi j'ai...
Wouh ! Ah, voilà.
Oh, vous êtes au moins 500. On ne s'attendait pas à ce que vous soyez.
Attends, on n'a pas commencé à enregistrer.
Ah, pardon.
Pourquoi il y a une chemise bleue ?
Parce que je n'avais pas de rouge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.